Il est 13h à Yaoundé. Marie-Françoise Ewolo présente le journal.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Gestion des catastrophes au Cameroun, la difficile équation. Kousséri dans l'extrême nord sous la menace des eaux, la Damawa et les installations anarchiques autour du mont Gaoundéré, Yaoundé et les constructions anarchiques dans les zones marécageuses, autant de points inquiétants qui appellent à une prise de conscience collective et rapide. Comment s'organisent les populations, les autorités et le difficile recasement des familles, le rôle de la protection civile et le potentiel dont dispose le Cameroun, reportage et analyse dans le dossier de la rédaction. Parlement, le décor est planté pour accueillir demain la session ordinaire du mois de novembre. Députés et sénateurs se retrouvent au palais des congrès de Yaoundé pour l'examen du projet de loi de finances et pour d'autres aspects importants de la vie de la nation. Le Trésor présente les grands dossiers qui attendent les élus du peuple. Que mangeons-nous au bureau? C'est notre série du 13h cette semaine. Les modes d'alimentation en milieu professionnel varient d'une structure à une autre. Entre restaurants et vendeurs ambulants, y a-t-il un choix? Certains préfèrent sortir du service pour une pause déjeuner. D'autres ramènent des gamelles de la maison ou alors passent des commandes en ligne. Premier arrêt ce midi, les vendeurs ambulants qui sillonnent les bureaux. Sport football, les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à quitter Yaoundé pour Johannesburg en Afrique du Sud. L'équipe nationale Fagnon joue mercredi prochain contre la Namibie pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Budget d'investissement, public, exercice 2024. Le taux de réalisation physique des projets est de 46,78% au 30 septembre 2024. Principale information à retenir des travaux du Comité national de suivi de l'exercice de l'exécution physico-financière de l'investissement public réuni depuis ce matin à Yaoundé. Malgré une légère hausse du taux d'exécution de ce budget, les acteurs de la chaîne budgétaire sont appelés à plus de diligence et d'efficacité pour atteindre l'objectif d'une réalisation à 100% des projets au terme de l'exercice 2024. Toussaint Bemagna.
Les projets mal exécutés ou non exécutés doivent désormais relever du passé. C'est en ces termes que la présidente du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public a ouvert la rencontre de Yaoundé en reconnaissant tout de même les efforts déployés sur le terrain en termes de réalisation des investissements. L'on s'est inquiété cependant de la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines régions du pays avec pour conséquence la faible exécution des projets. Rosette Ayayi, présidente du Comité national de suivi du budget d'investissement public.
Le problème d'insécurité dans certaines zones, les problèmes de non-maturation de projets dans d'autres, les problèmes de paiement des comptes dans certaines zones, et puis tout récemment encore aussi les problèmes de changement climatique.
Pour l'exercice 2024, l'investissement public a bénéficié d'une enveloppe de 1 604 milliards de francs CFA, soit 24% du budget total de l'État. Des fonds destinés à la mise en œuvre des grands projets de première génération, à la préparation des projets de seconde génération et au renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation. Pour une fin d'exercice budgétaire réussie, les participants à cette réunion ont été exhortés à assurer de façon efficiente l'identification des problèmes et défis auxquels fait face la mise en œuvre des projets d'investissement public au Cameroun.
Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est réjoui de la qualité de la coopération avec le Cameroun. En visite de travail dans notre pays, Senen Unton a été reçu en audience en fin de matinée à l'immeuble étoile par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. C'est à la faveur du 30e anniversaire de l'agence onusienne. Il s'exprime au micro de Laurentine Bocono.
Je suis venu exprimer la gratitude du Fonds des Nations Unies pour la population au gouvernement du Cameroun. Cette année, c'est une année particulière, c'est les 30 ans de la Conférence internationale pour la population et le développement. Durant toutes les dates commémoratives pour marquer cet événement, le Cameroun a été à nos côtés. Depuis la réunion ministérielle, la réunion des experts, la réunion globale et même au sommet du futur avec le président Philemon Niang de l'Assemblée générale pour positionner les questions qui nous tiennent à cœur, mais qui tiennent à cœur aussi au gouvernement du Cameroun, à savoir l'investissement dans la jeunesse et le capital humain des jeunes et des femmes. Deuxièmement, c'est venir écouter le gouvernement, écouter nos bénéficiaires pour savoir comment mieux servir le pays. Et puis, troisièmement, nous avons fait des plaidoyers en ce qui concerne la contribution du gouvernement, en ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitat et d'autres sujets très importants qui concernent notre agence qui s'occupe essentiellement de s'assurer que les femmes ne meurent pas en donnant la vie, qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes et que les grossesses restent un choix et non un hasard. Ici, au Cameroun, il y a de l'expertise. Pendant plus de 3 décennies, c'est ici qu'on forme les démographes qui ont servi toute notre agence. Nous avons l'expertise nationale.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 5 minutes à Yaoundé. Après l'éboulement de terrain survenu à la falaise de Tchan, les secouristes continuent les fouilles pour extraire les victimes et les véhicules qui ont été engloutis depuis le 5 novembre dernier. Sur l'organisation de ces secours, je vous propose d'écouter quelques autorités dans ce reportage de Jean de Dieu Coigne à Tchan.
Sur le site de l'éboulement de terrain à Foroké-Tchan, les secouristes intensifient la fouille dans l'optique de retirer des mottes de terre des personnes ensevelies depuis le 5 novembre dernier, avec pour espoir de retrouver un autre miraculé comme le conducteur d'engin. Ces travaux se déroulent sous la coordination du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonko-Augustine.
Le travail que les différentes équipes sont en train de faire est très technique. Ils ont d'abord commencé avec les engins et cela a failli provoquer un troisième éboulement. Ils se sont arrêtés pour pouvoir travailler avec main d'œuvre. Et voilà que le sol est stabilisé, les engins sont revenus à l'achat.
Sur le plan sanitaire, le personnel est à pied d'œuvre. Docteur Chimoun Daouda, délégué régional de la santé publique de l'Ouest.
Nos équipes s'occupent de ceux qui travaillent dans le site, puis prendre en charge les décès pour la sécurisation des personnes décédées à travers la désinfection de corps et puis leur conservation dans les housses mortuaires pour leur transfert à la morgue de l'hôpital régional à Nest de Tchan.
Dans le cadre de cette opération de secours, plusieurs volontaires travaillent aux côtés des équipes spécialisées. Tchang, Jean de Dieu Coigne, CRTV.
Le phénomène de l'occupation des zones non constructibles prend de l'ampleur dans les grandes villes. En dépit des dangers, de nombreuses familles s'installent dans des quartiers à risque, souvent pour des raisons économiques. C'est le cas à Yaoundé, où ravins et zones inondables sont devenus des espaces de vie, exposant les populations à des risques importants, surtout en saison des pluies. C'est le constat fait dans ce reportage de Rose Coco.
Quartier Mendong à Yaoundé, lieu dit derrière gendarmerie. C'est tout près de ravins qui se creusent un peu plus chaque année sous l'effet de l'érosion que vit Françoise Tchombo.
Nous restons là, on lave les assiettes. Et de l'autre côté, l'assiette tombe que tous les jours.
Bien que consciente du danger, cette mère de famille ne compte pas quitter le site, une zone à risque, bondée d'ordures ménagères.
Si c'est ta maison, c'est ton terrain, tu fais comment? Tu déménages? Tu déménages quand tu as des moyens pour aller ailleurs.
Des dangers similaires menacent également les habitants des quartiers de Ngouekele à l'ancienne carrière et de Don Bosco à Mimboman. Dans ces zones, des maisons en état de dégradation se situent près d'une fosse d'environ 10 mètres de profondeur.
Si on était un peu éloignés, nous, on ne savait même pas que ça pouvait nous atteindre. Aujourd'hui, c'est déjà près de la maison.
Après la pluie de cette année, rien ne fait que descendre.
Démunis et désemparés, ces habitants lancent un appel pour bénéficier de recasements et de logements sécurisés.
On est dépassés. Nous, on pleure tous les jours.
On n'a pas de moyens ici pour gouvernement pour pouvoir nous aider.
Ce sont des maisons, ce sont des terrains titrés. On aimerait juste qu'on nous vienne en aide.
C'est dans cette optique qu'un plan d'urgence de réinstallation et d'aménagement a été activé au ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour prévenir les catastrophes naturelles.
Dans le département du Logone-Chari, plusieurs localités ont encore les pieds dans l'eau. À Kousséri, par exemple, les eaux envahissent les quartiers et les populations s'organisent comme elles peuvent pour faire face à ces inondations. Voici le reportage d'Aladji Mustapha à Kousséri.
Au quartier Madagascar, l'un des plus touchés par le phénomène des inondations, la situation devenue critique a suscité un sursaut d'orgueil au sein de la population.
Le quartier s'est mobilisé pour donner de l'appui. Nous sommes ici jour et nuit. Il y a souvent qu'on monte la garde en cas d'ouverture. On lance l'alerte, on se mobilise.
Les eaux débordent, mais la population aborde avec résilience ce phénomène qui bouleverse son quotidien. À ses côtés, pour renforcer ses capacités de déploiement et de gestion de ces inondations, l'élite locale, honorable Kamsloum Abakabir, député du Logone-Chari.
Tous les 10 arrondissements sont affectés. Nous avons acheté des milliers de sacs et qu'on a donné aux populations. Nous avons aussi créé quelques latrines. Plusieurs écoles ont été délocalisées. Nous avons décidé d'apporter des kits scolaires, aussi bien aux élèves qu'aux enseignants.
Les chefs traditionnels se sont aussi jetés à l'eau pour des actions de solidarité à mener. Sa Majesté Mahamat Abba, sultan de Kousséri.
Nous avons fait un agenda avec la population des quartiers menacés pour que nous puissions sortir tous les mercredis et les samedis.
Résultat de course, la gestion de ces inondations a pris la forme d'une approche communautaire. Kousséri, Aladji Mustapha, CR TV.
Les flancs du mont Gaoundéré, désormais transformés en zones d'habitation, déclarées pourtant zones à risque, les populations s'y sont établies en marge de la réglementation. Les administrations en charge de réguler la situation multiplient les sensibilisations, mais les messages traînent à produire les effets escomptés malgré le danger qui plane. Les détails dans ce reportage d'Alexis Guidjartouan.
Les flancs du mont Gaoundéré, situés en plein cœur de la ville, chevelure de l'Adamawa, sont prédisposés à des éboulements et autres éruptions volcaniques. Mais seulement, la poussée démographique a fait de ces lieux à risque un endroit prisé par la population.
On vend un terrain à plus de 2 ou 3 personnes. Et celui qui a plus de moyens parvient à obtenir le terrain. Ceux qui n'en ont pas, ils se refugient auprès de montagnes pour construire.
Les prix de terrain en Gaoundéré sont chers. Ce qui fait que ceux qui ont peu de moyens, ils se refugient auprès des montagnes.
Face à cette occupation risquée, la communauté urbaine et la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain multiplient des actions encore fragiles. Mais Bobo Saliou et Alain Poteau ne se lassent pas.
Un comité de veille a été créé pour limiter, sensibiliser, rechercher les zones de construction.
Ces gens qui construisent savent que là où ils sont, là, ce n'est pas un bon endroit. Ça, ils le savent. Mais néanmoins, il faudra que nous fassions également notre travail de communication pour la sensibilisation, l'interdiction. Nous le faisons aussi.
Surtout que force revient à la loi. Gaoundéré, Alexis Guidjartouan, CR TV.
Le renforcement des mesures de prévention est préconisé aux États en développement contre les effets de changement climatique. Des stratégies rapides doivent être mises en place afin de réduire l'impact des catastrophes naturelles. C'est l'avis d'un géographe spécialiste des questions de gestion des risques environnementaux. Le docteur Frédéric Sa indique que le Cameroun doit par exemple relancer le logiciel d'alerte qui se trouve à la direction de la protection civile. Nous l'écoutons, il est au micro de Daniel Sopo.
La direction de la protection civile a un logiciel qui s'appelle Crisis. Ce logiciel, malheureusement, n'est pas suffisamment mis à jour. Le PNUD appuie actuellement le ministère pour remettre à jour ce logiciel-là. Il y a un problème de financement par rapport à tout ce qui doit être fait. Mais au niveau du financement, il faut savoir raison garder parce que le Cameroun dépense beaucoup d'argent dans la reconstruction. On ne fait pas grand-chose. C'est lorsque la catastrophe frappe et puis fait des dégâts, on est obligé de reconstruire, de dépenser beaucoup de moyens pour remettre les situations à jour. Et la Banque mondiale nous alerte sur le fait que lorsqu'on investit $1 dans la prévention, cela nous permet d'éviter de dépenser $7 dans la construction. Donc, il est temps qu'on retourne un peu le paradigme pour commencer à plus investir, à mettre plus de moyens dans la prévention, dans les systèmes d'alerte précoce. Cela nous permettrait de diminuer le coût de ces catastrophes-là au niveau de notre société.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 14 minutes à Yaoundé. Session ordinaire du mois de novembre au Parlement, c'est demain le grand jour. Députés et sénateurs reprennent du service ce mardi, jour de l'ouverture des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. Au-delà de l'examen du projet de loi de finances attendu, les parlementaires vont également s'intéresser à d'autres aspects de la vie de la nation. Voici quelques grands dossiers sur la table des élus de la nation et des représentants des collectivités territoriales décentralisées. Julienne Paul-Ngono.
Encore appelée session budgétaire, la session ordinaire du mois de novembre au Parlement sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À l'observation, les députés et les sénateurs ont participé au débat d'orientation budgétaire pendant la session du mois de juin dernier. Ils sont donc mieux outillés pour comprendre et débattre de certains aspects concernant la préparation du budget de l'État, notamment le contexte, les contraintes, les perspectives et les exigences liées à l'élaboration du texte de loi régissant loi des finances attendue. Selon le ministre des Finances, Luppol Motazé, la politique budgétaire du gouvernement en 2025 restera adossée sur la consolidation de la situation des finances publiques en cohérence avec le programme économique et financier du FMI et les objectifs prioritaires de la stratégie nationale de développement SND 30. Au niveau de la fiscalité interne, le gouvernement prévoit l'adoption et la mise en œuvre de la loi portant fiscalité locale. Le texte est très attendu par les conseillers locaux puisqu'il leur permettra de disposer de ressources propres pour l'implémentation des plans régionaux de développement. Outre sa mission régalienne, on a constaté que depuis quelques sessions, le Parlement a décidé de prendre à bras le corps de nombreux sujets d'actualité, notamment l'éboulement survenu à la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest et qui a fait 11 morts au dernier bilan. La lutte contre la vie chère, les problèmes d'insécurité à quelques jours des célébrations des fêtes de fin d'année figurent dans l'agenda des parlementaires.
Servir de plateforme pour l'échange, le partage, la réflexion et la promotion de la culture du manioc, c'est l'objectif du premier festival international du manioc ouvert ce lundi à Douala par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbayirobe. L'événement réunit tous les acteurs de la chaîne de production du manioc ainsi que des curieux. Sur le site du festival, à la maison du parti de Bonanjo, les premiers échos de Hall Cassava avec notre reporter José Gaëtan Sanga de CRTV Littoral.
De cette cérémonie d'ouverture, la maison du parti de Bonanjo sera transformée en un grand hangar d'exposition du manioc et de ses produits dérivés. Sur l'étape, l'on peut apercevoir le bâton de manioc communément appelé babala, du tapioca, des biscuits faits à base de tubercules, un gâteau de feuilles de manioc, du pain produit grâce à la farine du manioc et même une liqueur qui nous vient de Ngoumou dans la région du San. Aussi visible, à côté des délices cités, les produits issus de la pharmacopée africaine, le manioc nourrit et soigne. Le concept d'import substitution cher au président Paul Biya a donc toute sa place. Le premier festival international du manioc All Cassava, organisé par l'ONG Femmes Action Développement au Cameroun, a pour promotrice Yvette Valérie Doumé Banlock. Le but est de mettre en réseau les producteurs locaux spécialisés dans la production, la transformation et la commercialisation du tubercule. Gabriel Mbayirobe, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, préside la cérémonie d'ouverture, veut impulser une véritable chaîne de valeur du manioc au Cameroun. Rappelons que le thème de la première édition du Festival du manioc All Cassava est « Lutte contre l'insécurité alimentaire par la promotion de la culture du manioc » et la valorisation de son potentiel économique. Maison du parti de Bonanjo, je suis José Gaëtan Tsanga pour le 13h.
Le lycée technique de Yoko dans le Mbamikim, région du centre, fait face à un véritable manque de personnel et d'infrastructures. Certaines classes d'examen ont même fermé leurs portes depuis la rentrée scolaire. Les élèves se dirigent vers d'autres établissements situés dans les villes environnantes. Voici les détails avec Germaine Alim, CRTV Centre.
Chaque année, les enseignants partent, on remplace. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec 7 enseignants titulaires et les enfants sont en train de partir.
La communauté éducative du lycée technique de Yoko dans le Mbamikim, région du centre, est désemparée suite au déficit criard en matière d'enseignants dans cet établissement scolaire. Pascal Blaise et Souma, proviseur du dit lycée.
Dans deux spécialités, maçonnerie et sciences et technologies du tertiaire, il n'y a aucun enseignant titulaire, aucun enseignant en génie civil, aucun enseignant en ESCOM, employé de service comptable. Ceci a donc pour résultat la fermeture des classes de terminale, fermeture des classes de premier. Lorsqu'il manque déjà le français, l'anglais, les mathématiques, les enfants à l'enseignement général ne peuvent même pas s'exprimer.
Ici, la formation se heurte au manque d'équipement d'apprentissage.
L'atelier d'électricité est cloisonné pour faire les cours. L'atelier maçonnerie est cloisonné aussi pour faire les cours. Ces quatre salles de classe sont cloisonnées pour faire les cours. Le lycée technique n'a jamais eu un BIP pour construire les salles de classe.
Consciente de la priorité qu'accordent les pouvoirs publics à l'épanouissement de la jeunesse, la communauté éducative du lycée technique de Yoko est confiante des lendemains meilleurs.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 19 minutes à Yaoundé. Notre série du 13h, cette semaine, gros plan sur l'alimentation en milieu professionnel. Le 13h marque un arrêt sur la restauration ambulante. De nombreux travailleurs n'ont pas toujours la possibilité de s'accorder une pause déjeuner pour s'alimenter et beaucoup optent pour la livraison des repas au bureau. Constat fait dans ce reportage de Marie-Claire Messier-Cobena.
Bonjour madame, j'ai du poulet grillé, du bar à la poêle, maquereau à la poêle, rôti de foie, rôti de rognon.
La restauration ambulante est en plein essor dans les administrations privées et publiques de la capitale.
Quand j'ai fini de préparer, il y a ceux qui sont dans les bureaux qui ne peuvent pas se déplacer. Je les envoie les menus et ils commandent et je m'en vais les servir au bureau.
On peut pas de héros, de écouan, couscous, avec du kati-kati, parfois aussi avec du taro. Les clients aiment vraiment ces mets traditionnels.
Une pratique courante qui semble trouver un écho favorable auprès de nombreux travailleurs avec en prime un service rapide et des prix attractifs.
On vient de me livrer le mets d'épissage avec le bâton de manioc. Je préfère manger ici pour ne pas perdre le temps.
Je préfère appeler le service traiteur. Ça me permet de manger sur place et continuer mon travail.
J'ai un fournisseur. Je commande souvent à manger chez lui. Je trouve que c'est propre, c'est bien fait. Donc du coup, je suis abonné là-bas. Puis quand j'ai pas apporté mon goûter, je peux commander.
Toutefois, certains émettent quelques réserves sur l'hygiène aléatoire de ces repas qui peuvent présenter des risques pour la santé.
C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas très propres, mais bon, parfois c'est une histoire de chance. Quand il y a déjà un petit couac là, il ne prend pas, je laisse.
Économie de temps, augmentation de la concentration, de quoi permettre d'avoir de l'énergie nécessaire pour une productivité optimale. Les habitudes alimentaires au bureau varient selon les cultures, les préférences personnelles et les contraintes de temps de la vie de nombreux travailleurs. Voici les réactions de quelques-uns recueillies par notre reporter Marie-Claire Messier-Cobena.
Ici, nous nous sommes d'abord très occupés. On n'a vraiment pas de pause. On passe le temps à grignoter. Et au ministère, c'est un ministère de souveraineté et pour déjà l'image de marque. Mais il arrive de par moment, on peut grignoter quelques biscuits, quelques cacahuètes. Mais quand il faille vraiment qu'on aille chercher de quoi manger, on préfère sortir chercher de quoi manger dehors dans un restaurant.
Déjà, je trouve que ce que l'on fait au bureau n'est pas forcément spécial. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, ce sera le repas que j'ai fait à la veille, c'est-à-dire un bouillon de poisson avec du plantain.
Il y a beaucoup d'endroits à côté, des petits coins où on arrive à manger. Ça dépend, ça peut être un bouillon, le héros, le sangha. Ça dépend de ce qu'il y a déjà au menu. Il y a des possibilités d'être livré, mais c'est toujours mieux de sortir, prendre un peu d'air.
On a les heures de pause, on mange ce qu'on voit. Par exemple, le poisson frit avec les beignets parfois. Il y a aussi le coq et peut-être le poulet. Ou alors la sauce d'arachide. Bref, c'est qui est là devant nous, on mange. Ce sont aussi les moyens qu'on a. Moi, particulièrement, je préfère sortir. La livraison coûte un peu plus cher.
L'hôpital régional annexe d'Ayos abrite une vaste campagne de chirurgie gratuite des hernies. Des équipes médicales mobiles sillonneront les villages et les quartiers de la commune afin de détecter les cas à opérer. Cette campagne est placée sous la supervision du maire, président du bureau de section RDPC d'Union Infomo Nord d'Ayos, Paul Ndongo-Bikor. Dans le cadre des préparatifs de la double cérémonie d'installation et d'intronisation du chef de premier degré Boulou de Bengbis, le président de la commission centrale d'organisation, le colonel Meillon Patrice, invite tous les ressortissants de l'arrondissement de Bengbis à prendre part à une importante réunion qui aura lieu le mercredi 13 novembre à partir de 13h. Ce sera à l'hôtel Giraffe situé à Eligesono, Yaoundé. En En sport, football, les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à quitter Yaoundé pour Johannesburg en Afrique du Sud. L'équipe nationale joue mercredi prochain contre la Namibie. De nouvelles recrues dans la tanière des Lions indomptables pour les dernières rencontres. Arthur Avom est bon, 19 ans, milieu offensif, évoluant à FC Lorient en France. Et Wiliti Younoussa, 23 ans, milieu défensif de Rodez Aveyron, toujours en France, sont à leur première sélection à l'équipe nationale du Cameroun. Portrait de ces deux nouveaux visages des Lions, Didier Marius et Tundi.
Ils ont pour dénominateur commun milieu de terrain. Wiliti Younoussa, 23 ans révolu, 1m74, est né dans la ville de Tcholéré, région du Nord, et milieu défensif. Il fait ses premiers pas dans le football au sein de quelques académies. Il dépose ses valises à Dijon en 2020. Il évolue avec ce club une saison en première division, puis une autre en deuxième division. En 2022, il intègre les rangs de Rodez Aveyron Football, où il est à 13 matchs de titularisation et un but inscrit. Younoussa est le quatrième enfant dans une famille de 10. Arthur Avom est bon quant à lui, voit le jour à Yaoundé le 15 décembre 2004. 1m85, milieu offensif, il fait ses classes à Léopard Royal de Berthois. Le relayeur évolue à Fauvazur en Elite One la saison 2022-2023 avant de s'envoler pour Lorient FC en France en Ligue 2. L'international camerounais a deux sélections en U20. Il a disputé le CHAN en 2022. Ses nouvelles recrues de Marc Brice se lancent dans une nouvelle aventure avec d'autres défis.
En cyclisme, deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya, les préparatifs s'intensifient, les Français et les Centrafricains annoncent leur participation. La République Centrafricaine, qui est invitée spéciale à ce circuit de 12 km, arrive dès le 20 novembre prochain. Question de se familiariser avec le site en attendant le premier coup de pédale le 29 novembre prochain. Le ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique au numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie.com. Harmonie2.cm, un numéro de messagerie 237 691 881 881 pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. Vous écoutez le 13h, à présent voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokosojuki.
Good afternoon. Ways of strengthening cooperation ties between Cameroon and the United Nations Population Fund have been explored during an audience the Prime Minister, head of government, granted to the UNFPA Regional Director for Western Central Africa. Dr. Senen Huntun used his visit to the Star Building today to express gratitude to the Cameroon government for support during the commemoration of the 30th anniversary of the Cairo International Conference of Population and Development, which took place this year. Members of the National Committee for the Follow-up of Public Investment Projects have begun meeting in their first session in Yaoundé at the start of proceedings chaired by the President of the Committee, Honorable Rosette Ayayi. It was announced that the execution rate of public investment projects in the country is 44.57% as at last September, up from 40.77% registered same time last year. Measures to improve on the quality of cost-effective road pavements utilizing local materials that respect standardized construction norms have been discussed in a high-level meeting of actors in the public works chain chaired by Minister Emmanuel Nganou-Djoumessi Experts have been addressing key challenges in the construction and rehabilitation of pavements for national road projects, insisting that the quality of works must meet durability standards. And in sports, the Minister of Sports and Physical Education has called on the Cameroon Football Federation to work closely with all stakeholders involved in organising the Indomitable Lions 2025 AFCON qualifiers against Namibia and Zimbabwe. Minister Narcisse Melekombe made the appeal today in Yaoundé during the first preparatory meeting for the upcoming matches. These and more at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, Parlement, le décor est planté pour accueillir demain la session ordinaire du mois de novembre. Députés et sénateurs se retrouvent au Palais des Congrès de Yaoundé pour l'examen du projet de loi de finances. En sport football, les Lions indomptables quittent Yaoundé pour Johannesburg en Afrique du Sud. L'équipe nationale Fanion joue mercredi contre la Namibie. Le match compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. 13h29 minutes à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.